solidarité avec vous. Alors, c'est la première fois que je viens au Chambon, parce que le Chambon, pour moi, c'est un lieu mythique. Je crois que ça va rester un lieu mythique quand je partirai. Alors, c'est là que des hommes et des femmes ont eu le courage et la fermeté de ne pas se laisser emporter par le vent mauvais du racisme. Et que c'est là qu'il a fallu vraiment une forte détermination. Parce que la pensée facile, la pensée paresseuse, c'est de se soumettre, c'est de répéter les slogans de la pensée dominante. Et garder sa liberté intime, garder la possibilité de réfléchir, de rencontrer, de visiter pour juger, ça c'est un acte de liberté. Et cet acte de liberté, pour moi, il a eu lieu ici au Chambon, dans d'autres régions aussi, mais à Noissac, à Isieux, dans d'autres, à la Commission centrale de l'enfance, à qui je dis un grand merci. Mais c'était vraiment des lieux où on apprenait à résister spirituellement et à ne pas se laisser emporter par la bourrasque du vent mauvais. Alors, je me dis que finalement, dans les années 40, ça avait commencé dans les années 30, mais dans les années 30, personne ne croyait vraiment, au début, en 1929, personne ne croyait vraiment au nazisme. Hein, c'était, il y avait 2,6% des Allemands, de ce peuple incroyablement cultivé, 2,6% des Allemands croyaient que c'était une stupidité et que jamais ils n'ont prévu, en 10 ans, le vent mauvais, la bourrasque qui allait emporter ce peuple cultivé. Ce qui s'est fait en 10 ans en Allemagne, grâce aux artistes, grâce aux films, grâce aux romanciers, grâce aux extases des réunions publiques, aujourd'hui, grâce à Internet, se fait en un mois. La même bourrasque, la même épidémie, la contagion émotionnelle où on perd sa capacité de juger, se fait aujourd'hui en un mois. Et on voit des jeunes qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas plus mauvais que moi, qui ne sont pas plus bêtes que moi, mais qui se laissent embarquer parce que notre culture ne leur donne plus de lieu de jugement, de lieu de réflexion, de lieu de rencontre entre personnes différentes, entre religions différentes, entre pensées différentes. Et ici, comme aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre. Alors, bien sûr, c'est un réconfort d'être invité ici, parce que dans les années 30-40, il y a eu un processus de déshumanisation de tous ceux qui n'étaient pas blancs aux yeux bleus. Parce que c'est absurde, c'est ridicule de dire ça, mais étaient considérés comme des gens de race supérieure les blancs aux yeux bleus. Et c'était argumenté. Et moi, j'affirme que la seule race supérieure, les hommes de qualité biologique supérieure, c'est les chauves. Et donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis convaincu que c'est vrai. Alors, voilà, la réaction saine, c'est celle que vous avez eue, c'est ridicule, vous voulez en rire. Mais dans les années 40, on ne pouvait pas en rire. Et pourtant, et beaucoup de gens, au contraire, se sont laissés embarquer par cette idée invraisemblablement stupide à laquelle des millions de gens cultivés ont adhéré et se sont soumis parce qu'il n'y avait pas de lieu de débat, de lieu de réflexion. Alors, sans mémoire, qui serions-nous? La réponse est claire pour moi, sans mémoire, nous serions personne. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir de qui je suis né, d'où je viens, quelles étaient la pensée de mes parents, la religion de mes parents, leurs croyances sociales, religieuse, métaphysique. J'ai besoin de savoir comment ils faisaient pour socialiser les hommes et pour socialiser les âmes. Parce que la socialisation des hommes, on peut la faire en manigant ça, en disputant, c'est le seul but des politiques. Hein. Mais la socialisation des âmes, on la fait quand on se coordonne autour d'une croyance, d'une représentation métaphysique. Et là, on peut apprendre comment éprouver le monde, comment être au monde, à condition de ne pas en faire un langage totalitaire. comme ça se fait régulièrement, parce que la pensée paresseuse, c'est le langage totalitaire. C'est-à-dire apprendre à réciter des slogans. De réciter des slogans, et réciter, c'est arrêter la pensée. Et on voit par exemple dans les slogans publicitaires, qui sont des chefs-d'œuvre sémantiques, où la télévision coûte tellement cher qu'on a intérêt en quelques images et en quelques mots et avec un fragment musical à faire passer tout un message. Achetez McDo. Et hop, des millions de gens achètent McDo. Et bon, pourquoi pas, c'est pas très grave pour McDo, quoique. Mais c'est beaucoup plus grave quand il s'agit d'acheter une idéologie ou surtout croyez en moi et Hitler qui est le représentant de la réussite de cette pensée par slogan, recevait chez lui tous les jours un chanteur d'opéra qui lui apprenait les gestes, que, vous savez ces gestes-là, que Charlie Chaplin a merveilleusement bien décrit dans Le Dictateur, parce que comme la technologie était moins bonne qu'aujourd'hui, il fallait qu'en quelques gestes et en quelques mots, que personne ne comprenait, il provoque une transe. Et cette tranche, c'était la manipulation des foules. Et depuis le 19e siècle, il y a des techniques de manipulation des foules. Alors j'en cite une de mémoire. Il arrive, il monte les escaliers, les projecteurs le prennent dans des faisceaux lumineux, les drapeaux claquent, les tambours roulent, je pleure. Brasillach racontant la montée d'Hitler. Aucune réflexion. Que de la passion, aucune réflexion. Et il je pleure, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de débat, il y a une pas au commissariat. Le gouvernement de Vichy lui aura donc un rappel à l'ordre. Quand il reçoit l'ordre de rafler les juifs de Limoges et de la région, il dit « Je n'enverrai l'armée et la police que contre les délinquants ou ceux qui troublent l'ordre public. » Pas forcément contre des gens qui ont une croyance qui n'est pas la mienne. Quand Henriot est tué par la résistance française, en tant que préfet, il doit assister à l'enterrement, et le général allemand vient lui serrer la main, et Shérif Mechri, musulman, préfet de la France, se tourne, ne lui serre pas la main et dit « je ne peux pas serrer la main » d'une armée d'occupation qui persécute les miens. On n'en parle pas. Il n'a pas été héroïsé. On ne l'a pas fait injuste. J'ai le dossier à votre disposition. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de justes méconnus. Et alors, on me l'a reproché hier soir, mais la plupart, si vous n'étiez pas là pour mettre en lumière les justes, eux ne se mettraient pas en lumière. Quand j'ai fait donner la médaille des justes à Marguerite Farge, et elle disait « mais non, c'est pas la peine, mais je pouvais pas faire autrement. Ben, » Comment ça tu pouvais pas faire autrement? Mais oui, je pouvais pas laisser un enfant de 6 ans et demi, quand même, je pouvais pas le laisser arrêter. Alors j'ai été arrêté chez elle, et je disais hier soir que j'ai été arrêté, j'avais 6 ans et demi, et j'ai été arrêté par 4 ou 5 hommes avec un chapeau de feutre, des lunettes noires la nuit, une torche dans la main gauche et un revolver dans la main droite pour arrêter un petit garçon de 6 ans et demi. Je me suis dit, je suis très important, je dois être très important, et ça m'a rendu mégalomane. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut vraiment que je sois important. Dans le couloir, il y avait les Allemands. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais j'ai l'impression que c'est vrai. J'aimerais que ce soit vrai. Je crois qu'ils étaient le fusil à la bretelle, à l'épaule. Je me fais croire qu'ils étaient gênés. J'en suis pas sûr. Ça me plairait de le croire. Mais à ce moment-là, Madame Farge, la juste, a dit on ne lui, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. Et c'était la première fois que j'entendais ce mot, puisque mon père s'était engagé dans le régiment des volontaires étrangers. Donc je ne savais pas qu'il était juif, il s'est engagé en 1939, et ma mère se